France Culture, Avoir raison avec René Dumont, par Sylvain Bourmeau.
Un pull rouge et un verre d'eau, deux attributs qui, pour beaucoup, suffisent à croquer la figure de René Dumont. Deux attributs qui crèvent l'écran en 1974, dans ce qui restera comme l'allocution sans doute la plus célèbre de toute l'histoire des campagnes présidentielles. Un succès sans commune mesure avec les 1,3% obtenus au premier tour, soit 337 000 voix, par celui qui reste avant tout connu comme le premier candidat écologiste. On ne saurait pour autant résumer la vie et l'œuvre de René Dumont à ce geste fondateur de l'écologie politique. C'est d'un homme siècle qu'il convient de parler, et pour se rendre compte à quel point souvent il eut raison, jusqu'à y compris contre lui-même. C'est l'objet de cette série d'émissions « Avoir raison » avec René Dumont. Et pour ce premier volet de cette série d'émissions, nous allons parler avec Jean-Paul Besset, qui est journaliste, qui a longtemps été journaliste, en particulier au Monde, dont il fut rédacteur en chef, et qui ensuite est devenu un responsable politique, élu député européen pour le parti Europe Écologie Les Verts. Mais c'est au titre d'auteur et de biographe de René Dumont que Jean-Paul Besset est parmi nous aujourd'hui. Il est l'auteur de la seule biographie consacrée à René Dumont, qui avait paru au début des années 90 aux éditions Les Petits Matins et a connu une seconde édition quelques années plus tard. Également avec moi en studio à Paris, Alexandre Moati. Bonjour.
Bonjour Sylvain Bourmeau.
Alexandre Moati est historien des sciences, aujourd'hui à l'université Paris Cité, et il est l'auteur, pour fêter les 40 ans de cette candidature de 1974, d'un article qui avait paru dans la revue en ligne La Vie des Idées et qui revenait au fond sur l'importance de cette figure, de cette trajectoire, de ce parcours dont nous allons parler aujourd'hui, de cet homme siècle, puisque les choses commencent en 1904 lorsque naît René Dumont et commencent aussi 10 ans plus tard, en 1914, lorsque la Première Guerre mondiale se fait jour.
Adolphe Gautier avait été député socialiste de Clamecy de 1910 à 1914. Aux élections de 14, il a été battu, mais il était resté maire de Flécusy et c'était un militant socialiste, qui a vu arriver ce garçon, et il appelait ce garçon en amitié, j'avais donc là 11 ans et demi, et il m'a expliqué, il a pris une canne, et sur la terre, il a tracé le passage du communisme primitif à la propriété privée, et chacun a une petite parcelle. Et puis alors il y a le gros qui commence à acheter la parcelle du petit, puis qui le met à son service. Enfin, un cours de socialisme, et puis quelques mots sur la religion qui ont été très clairs. 3 semaines après ma première communion, j'avais compris que tout ça, c'était des légendes.
Le socialisme, l'économie, la propriété, la religion, mais surtout, d'abord, peut-être avant tout, le contexte de cette Première Guerre mondiale que le jeune René Dumont, à 11 ans, rencontre très directement, puisqu'il habite tout près du front. Le collège que dirige sa mère à l'époque est investi par des blessés, et c'est une rencontre qui sera déterminante, je pense, pour l'ensemble de sa vie, Jean-Paul Besset.
Oui, c'est un moment fondateur, ce rendez-vous avec la douleur, la souffrance et la mort. Il est en première ligne sur le front par sa mère. Il est gamin, il a 10, 11 ans, 12 ans, et sa mère tricote des pulls verts pour les pauvres soldats des tranchées. Et lui, il voit tous ces jeunes un peu plus vieux que lui. Crever la bouche ouverte, mourir de froid et de faim, et ça le marquera définitivement dans un pacifisme résolu, total.
Homme siècle, je disais, 77 ans plus tard, on est en 1991, la première guerre du Golfe est déclenchée par George Bush, et vous écrivez dans votre livre, Jean-Paul Besset, que René Dumont le vit très mal, qu'il reste 3 jours alité. Et on voit comment, au fond, ces guerres, la Première Guerre mondiale et puis cette Première Guerre du Golfe, encadrent, au fond, une existence.
Oui, toute sa vie. Il a détesté la guerre. C'était un homme d'affrontement, hein. Il n'avait pas la langue dans sa poche. Il s'est battu toute sa vie contre son ennemi personnel qui était, en gros, la famine, les disettes, à l'échelle mondiale. Mais il ne supportait pas l'affrontement individuel, il ne supportait pas la guerre, il ne supportait pas les armes. Il était fondamentalement pacifiste, et ça lui venait, la racine était renvoyée à son enfance, et aussi peut-être son rapport à la nature dès son enfance, cette espèce de sentiment paisible, d'un rapport paisible avec les êtres vivants.
On va revenir sur ce rapport à la nature qui est une autre chose fondamentale dans cette socialisation primaire, comme on dit. Mais Alexandre Moati, peut-être sur la question du pacifisme, c'est intéressant de relever que René Dumont fait partie d'une génération profondément marquée par cette Première Guerre mondiale qu'il ne pouvait pas faire, il avait 10-11 ans, mais il était suffisamment grand, en avance probablement pour son âge aussi, éveillé aux choses politiques. On l'a vu avec cette rencontre d'un député socialiste dès ce jeune âge. En tous les cas, profondément marqué, comme d'autres le furent, notamment Louis Lecoin, toute une génération d'anarchistes, au point de tenir bon au pacifisme pendant les années 30 et jusqu'à y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, Alexandre Moati.
Oui, alors René Dumont, donc il fait partie de ces utopistes des années 30, on y reviendra sur tout ce qui est l'homme nouveau, mais donc plus spécifiquement sur pendant la Seconde Guerre mondiale, cette fois-ci vous le regrettez vous-même Jean-Paul Besset, le fait que il n'a pas été résistant, il n'a pas été collaborationniste non plus du tout. Il est ingénieur agronome, il fait des articles dans un magazine qui s'appelle La Terre française où on peut lire les agriculteurs nous observe, soyons fiers de notre renommée, sachons leur montrer une agriculture progressiste au courant des plus récentes techniques. Voilà, je ne crois pas qu'il faille retenir cela contre René Dumont, mais c'est important de le savoir, que ça fait référence, ça renvoie à son pacifisme. Par ailleurs, il y a aussi des idées assez progressistes dans ce magazine La Terre française, qui ne paraît qu'en 40-44. Il y a des idées assez progressistes de René Dumont. Le métayer doit monter d'un niveau social et accéder au rang de fermier. Donc, il y avait tout un bagage d'idées qu'on retrouvera plus tard chez lui. Donc, mais je pense qu'il est bon de savoir, voilà, cette parenthèse où il écrit en tant qu'ingénieur agronome, en fait, dans ses revues.
Voilà. Jean-Paul Besset, c'est vrai que ce pacifisme, on a peut-être du mal aujourd'hui à le comprendre, à le resituer historiquement dans cette perspective du long XXe siècle.
J'ai mal entendu votre question.
Je disais que ce pacifisme, on a probablement du mal aujourd'hui à le resituer dans cette perspective du long XXe siècle pour cette génération marquée par la Première Guerre mondiale, en fait.
Oui, bien sûr. Bon, dans le contact que j'ai eu avec René Dumont, c'est une période de sa vie, la période de la Deuxième Guerre mondiale et de la Résistance, qu'il avait mal digéré, qu'il vivait mal. Il sentait bien qu'il y avait là une contradiction terrible. Mais son pacifisme était entier, comme celui de Jean Giono à cette époque-là, ou du père Jospin, le père de l'ancien Premier ministre.
Robert Jospin.
Pendant la guerre, il n'a ni résisté, ni collaboré. Voilà, il s'est mis à l'écart, et un peu la tête... la tête sous comme une autruche dans le sol. Voilà, c'est une. Il a poussé jusqu'au bout son dogmatisme pacifiste d'une certaine façon à cette époque-là. C'était plus fort que lui.
D'ailleurs,
ne pouvait pas participer.
Vous notez dans votre livre, Jean-Paul Besset, que il n'y a qu'un dogmatisme chez René Dumont, c'est celui-là. Par ailleurs, pour tout le reste, il n'y a aucun dogmatisme dans sa pensée.
Exactement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça renvoie, les racines renvoient à l'enfance et à cette douleur terrible. Moi, quand il m'en parlait, Il avait près de 80 berges. Il en avait encore les larmes aux yeux de ce souvenir d'un homme de 10-12 ans. La souffrance, le sang, et comme il disait, et en plus c'était des paysans pour lui c'était décisif qui était en train de mourir. Voilà, et ça il n'a jamais pu le dépasser, il n'a jamais pu comprendre, il n'a jamais soutenu des mouvements de guérilla. Ça a été un progressiste toute sa vie. Il a soutenu le tiers monde dans toutes ses expressions, mais jamais il n'a pu soutenir. Il n'a soutenu publiquement et intimement, d'une certaine façon, les mouvements de révolte violente.
Il était même gêné avec les insignes de mitraillette qu'on pouvait voir dans ces guerres de libération, de décolonisation à l'époque.
Oui, absolument. Mais même en 68, il n'aimait pas les barricades, il n'aimait pas les affrontements avec les CRS. Il n'aimait pas tout ça. Il n'aimait pas tout ça parce qu'il pensait que la bataille principale se menait ailleurs et qu'il fallait la mener pacifiquement.
Alors je voudrais qu'on revienne sur cette enfance très structurante, non seulement du fait de cette guerre dont on a parlé, mais également de la nature que vous avez évoquée également. Il y a la mère de René Dumont qui est agrégée et qui dirige un collège. Et puis il y a le père. Ce sont deux figures assez séparées pour lui. Il est beaucoup plus proche de sa mère. N'empêche que son père vient d'une famille de paysans qui est très importante pour lui. Son grand-père, ses oncles, il passait beaucoup de temps à la campagne enfant. Et finalement, il va faire la même chose dans la vie que son père, en fait. C'est-à-dire que son père... qui n'a pas pu devenir paysan parce que ses deux frères avaient pris la ferme familiale, est devenu un spécialiste d'agriculture. Il a écrit le Larousse agricole, la première édition en particulier. Mmh. Et René Dumont, alors qu'il est très proche de sa mère, va marcher dans les pas de son père, très très profondément marqué par l'expérience personnelle physique de la campagne, en fait.
Oui, c'est une expérience en particulier. Il passait tous ses étés chez son grand-père à faire les foins et à aller aux travaux des champs. Mais c'est une expérience charnelle. Il aimait ça. Il aimait ça quand il vivait avec sa mère. Il élevait des lapins dans le jardin. Il allait leur chercher des herbes tous les jours, etc., etc. Et ça explique beaucoup de choses. Ce sont des éléments fondateurs de l'enfance, son pacifisme et son rapport à la nature.
Il élevait des lapins qui finissaient par tuer pour les manger, hein, comme tous les paysans
à
l'époque.
Oui, bien sûr. Il n'était pas une contradiction près. Hein.
Alors, ce qui est intéressant, Alexandre Moati, c'est évidemment le fait que René Dumont va choisir de devenir un ingénieur, un ingénieur agronome, c'est-à-dire de cette expérience très sensible de la nature, il va faire son métier. Vous qui êtes historien des sciences, ça nous renvoie, et vous en parliez tout à l'heure, à ce moment des années 30, à cette utopie de l'homme nouveau, à cette façon de penser la science comme une manière d'accéder à un certain nombre d'idéaux politiques. René Dumont participe de plein pied à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Alors, on comprendrait mal René Dumont si on n'avait pas en tête, en effet, que c'est un ingénieur, agronome donc, hein, et beaucoup plus un homme de terrain qu'un théoricien. Alors, il fait de nombreux ouvrages, mais son ouvrage, La l'utopie ou la mort de 73, comme le reste de ses ouvrages, sont assez peu des ouvrages théoriques. L'écologie théorique, elle naît, on trouve chez Jacques Ellul, chez Bernard Charbonneau, dans les années 30, le mouvement personnaliste. Mais René Dumont... d'ailleurs, sa conversion à l'écologie était plus tardive, vous en parlerez, et plus un homme de terrain qu'un théoricien, quoi. Et alors, ces années 30, c'est aussi le bouillonnement... on peut considérer d'une certaine manière, je prends des précautions, que le communisme comme le fascisme était aussi des espèces d'utopie, mais dans les cercles de réflexion des années 30 en France, les groupes X-Crise, un groupe qui s'appelle Ordre Nouveau aussi, il y a cette réflexion sur qu'est-ce que pourrait être un homme nouveau. Et si je le mentionne, c'est parce que ça figure encore beaucoup dans son livre de 1973. Il fait appel pour une nouvelle utopie écologique, au fait qu'il faudra faudrait changer l'homme, en fait. Hein. Et donc, on comprendrait assez mal René Dumont si on n'avait pas en tête qu'il était baigné par ces utopies des années 30, en fait. Sinon, sur la science, il va se heurter à une certaine gauche aussi qui restait très productiviste, la voiture pour tous, disait Poprenne du Parti communiste. Et René Dumont leur dit la spoliation de la terre est plus importante que la spoliation de la plus-value, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment plusieurs thèmes chez René Dumont qui sont assez intéressants.
France Culture, avoir raison avec René Dumont, par Sylvain Bourmeau.
On le disait, Jean-Paul Bessé, René Dumont va suivre les pas de son père en devenant ingénieur agronome. Son père a enseigné l'agriculture dans le nord de la France toute sa vie. René Dumont, lui, va se distinguer néanmoins de ce parcours paternel en choisissant d'aller voir ailleurs et d'aller voir en particulier au Maghreb et puis surtout en Indochine.
Que Monsieur Moati disait tout à l'heure, et il avait raison, René Dumont n'est pas un théoricien ou un rêveur, même s'il avait des rêves et un imaginaire utopiste, c'est un homme qui aimait aller voir. C'est une immense curiosité. Et il avait besoin de l'expérience de terrain, de l'étude minutieuse des graines et des plantes, des climats et des vents pour se faire une opinion. Sa vocation d'agronome en quelque sorte était fondée sur son utopie socialisante, anarchisante, appelons-la comme on veut du départ, son pacifisme aussi, de nourrir le monde. Il s'appelait lui-même l'agronome de la faim. Il avait décidé que la famine était son ennemi personnel. Et pour ça, il n'a pas arrêté de faire ses valises, son sac, et de bourlinguer aux quatre coins du monde, parce qu'il voulait voir de ses yeux la réalité du terrain. Et c'est cette réalité du terrain qui lui a fait prendre conscience sur le tard de sa vie, près autour de 70 ans, de l'émergence de la crise écologique, et qu'il a là à ce moment décidé d'une certaine façon de penser contre lui-même et d'emprunter une autre voie. Dumont était un agronome productiviste au sens où il voulait faire pousser l'herbe pour nourrir le monde. Et il s'est aperçu que les conditions et le contexte n'étaient plus réunis pour faire pousser l'herbe sans précaution.
Mais est-ce à dire qu'il avait une curiosité tellement grande qu'il s'intéressait aussi à la manière dont on faisait de l'agriculture ailleurs, ou alors est-ce qu'il était dans cette idée que la science agronomique telle que conçue en Europe devait permettre de résoudre les problèmes de productivité et faire en sorte que tout le monde puisse manger à sa faim partout sur la planète ?
Les deux à la fois, je pense. Les deux à la fois. Il avait un grand respect des traditions culturel du monde paysan et de sa diversité. Son grand pays, on a beaucoup parlé de Dumont et l'Afrique, etc. L'Afrique est mal partie, à juste titre. Il a beaucoup travaillé sur l'Afrique. Mais le grand pays qu'il admirait et qui le fascinait, c'était la Chine, parce que la Chine était une civilisation paysanne. Il faut se rendre compte que cet homme-là a connu encore l'empereur de Chine. Il est parti, ça a été un de ses premiers grands voyages. Et il découvre la culture du riz au Vietnam. C'est lui qui l'a, d'une certaine façon, introduit en France. Il était à la recherche d'une certaine sagesse populaire et paysanne, traditionnelle, qui permettait de faire pousser la nourriture en respect de ses conditions, de son contexte climatique, de fertilité, etc., etc. Voilà. C'était tout ça à la fois. Dumont avait un regard périscopique, comme de la même façon qu'il voulait faire intervenir toutes les matières scientifiques dans ses recherches. Il allait voir tout le monde. Il s'intéressait à tout le monde. Il n'était spécialiste de rien, mais il connaissait la nourriture. Voilà, c'était ça sa définition principale, c'est agronome contre la faim.
Alexandre Monatti, vous êtes historien des sciences. De ce point de vue-là, la figure de Dumont est assez emblématique de ces scientifiques qui ont été formés pour être mis au service de l'Empire colonial français et qui, sur le terrain, découvrent des réalités qui les touchent et qui vont à la fois servir ces pays qu'ils découvrent et qui leur permettre d'accompagner, au fond, la décolonisation, la libération de ces pays. Parce que ce sera ça, la trajectoire entre ces années 30 où ils découvrent ce terrain et puis les années 50, à travers l'Afrique en particulier, où ils s'intéressent à la décolonisation et plus que ça, à l'après-décolonisation également.
Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'en effet, il y a une prise de conscience dans les années 30, en Indochine, notamment par Dumont, du fait que le système colonial français, avec ses administrateurs coloniaux qui régissent un peu tout, est peut-être pas fait pour un développement des peuples autochtones, notamment dans leur prise en compte de l'agronomie. Son aspect, on va dire, anticolonial, il viendra peut-être plus tard, à mon avis. On peut en discuter avec M. Besset dans les années 50, et même après, je trouve que dans son best-seller, parce qu'il a un premier best-seller quand même, L'Afrique noire est mal partie, 1962, il fait entendre une voix tout à fait étonnante à gauche, qui est une voix suivant laquelle cette décolonisation, c'est bien beau, mais elle se fait dans des conditions qui sont pas extraordinaires, et qu'il y aura des dictateurs, et qu'on remplace une puissance par une autre, finalement. Chose que, aussi, quelqu'un situé à gauche, comme Jacques Ellul, dira dans le Exégèse des Nouveaux Lieux communs en 1966, il dira à peu près la même chose aussi. Donc, vous voyez, c'est René Dumont. Ce qui est intéressant chez Dumont, c'est cette mouvance, c'est cet homme libre, quoi, qui donne des idées parfois à contre-pied d'autres tendances, quoi. Voilà.
Un homme libre qui a connu l'empereur de Chine, disiez-vous, Jean-Paul Besset, mais qui a aussi connu le président Mao et bien d'autres leaders du tiers-monde.
Il a connu tous les dinosaures du siècle. Il a fréquenté. Il était appelé par eux. Comme conseiller agricole. Et comme il disait lui-même, ce que je trouvais très drôle, quand il arrivait, on allait le chercher à l'aéroport avec des motards et des voitures officielles, et quand il repartait après avoir fait son rapport, il prenait l'autobus, parce qu'il s'était fâché avec tout le monde.
Donc Mao, mais aussi Fidel Castro, par exemple. En fait, il va effectivement d'abord voyager, mais ça, dans les années 30, surtout en Indochine. L'Afrique, c'est plutôt dans les années 50 qu'il va la découvrir et la sillonner,
c'est ça.
En fait.
C'est ça. Et comme disait M. Moati tout à l'heure, il a été un des pionniers, alors que Maud était... L'enthousiasme était derrière les indépendances, c'était un grand moment de l'humanité. Et lui a vu tout de suite les failles de ces indépendances, non pas pour revenir en arrière vers la colonisation contre laquelle il s'était toujours battu, mais parce qu'il pensait que ces nouveaux régimes qui émergeaient étaient dans le mimétisme du développement occidental. Et il a eu des engueulades terribles avec Bourguiba, avec Fidel Castro sur la place. Il leur disait, mais écoutez les paysans. À ces époques-là, dans les années 60, la paysannerie était la classe dominante d'une certaine façon, enfin la plus nombreuse sur la planète. Et lui se plaçait résolument du point de vue de la paysannerie, que ce soit les fellahs ou les péones toutes les paysanneries du monde. Il en faisait le tour. Il voulait être leur porte-voix.
Alexandre Moati.
Sur la Chine, peut-être un petit bémol. Enfin, ça va dans le même sens de ce que vous dites, mais il encore en 73, il vante le modèle chinois, alors qu'on sait quand même, on commence à savoir.
On est après la révolution culturelle.
Oui, après la révolution culturelle. Il en reste un peu à la révolution agraire cette fois-ci de 49, comme vous disiez, Monsieur Besset, sur le fait que ça a été une agronomie adaptée au peuple. Mais bon, il continue à vanter le modèle chinois, son malthusianisme, le fait, le contrôle des naissances, etc. Et il voit peut-être pas d'autre chose. Et il reste dans un état d'esprit qui est très tiers-mondiste, au sens où cette génération pensait que l'Orient, enfin le tiers-monde, allait se développer de manière différente. Or, l'avenir, il y a eu un décalage, puisque la Chine, notamment, s'est développée comme l'Occident, et Dumont parle des vélos en Chine, en les admirant, etc. Bon, maintenant, c'est plutôt des autoroutes qu'il y a partout en Chine, quoi. Donc voilà, c'est aussi ce type de décalage qu'il est intéressant de noter par rapport à son ouvrage, encore en 73, quoi, cette vision de la Chine.
Jean-Paul Besset, Alexandre Moati vient de prononcer un mot dont on n'a pas parlé encore, malthusianisme. C'était aussi une dimension importante, non sans rapport avec cette question de la faim que vous soulignez tout à l'heure, bien évidemment. Mais au-delà de ça, il y avait peut-être aussi, de la part de René Raymond, une attention à ce qu'on n'appelait pas encore les questions de genre. En fait, le premier tract que René Dumont a distribué dans sa vie, il avait 15 ans, c'était un tract pour le droit de vote des femmes.
Oui, il était très sensible à la condition des femmes, surtout à cette époque-là, et dans ces pays-là, dans les villages et dans les campagnes, parce qu'il savait que les femmes étaient le rouage essentiel de la nourriture des gens, que sans les femmes, tous les systèmes s'écroulaient, en particulier tous les systèmes agraires. On lui a beaucoup reproché son malthusianisme, mais voilà, ça renvoie à ses intuitions de départ. Il y a ceux qui pensaient que un enfant en plus, c'était deux bras en plus pour travailler, donc pour accroître les richesses, etc., etc. Et lui, il pensait que c'était d'abord une bouche à nourrir. Et comment on fait? C'était son obsession. Et il était de ses voyages, en particulier en Asie, mais aussi en Afrique, il revenait atterré par la croissance démographique qui à cette époque-là était galopante et dont on ne voyait pas la fin. Il disait la terre ne tiendra pas, la terre va craquer. Nous n'aurons pas assez d'humus dans les champs, de bois dans les forêts, de poissons dans les mers pour nourrir ce monde-là. Et ce monde-là il faudra bien le faire vivre, donc ce monde-là va polluer, ce monde-là va consommer, etc., etc. Donc il était pris dans cette contradiction-là, et c'était un grand défenseur du planning familial, d'une certaine façon. Il était pour une régulation des naissances, il était... Bon, voilà, ça rejoignait son obsession contre la mine.
Merci beaucoup Jean-Paul Besset. Je rappelle le titre de la biographie que vous avez consacrée à René Dumont, Une vie saisie par l'écologie. Elle a paru aux éditions Les Petits Matins. Merci Alexandre Moati. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un article paru dans la revue en ligne La vie des idées. On trouvera les références bibliographiques sur la page d'Avoir raison avec René Dumont. Et on se retrouve demain pour un deuxième volet de cette série consacrée à la question de l'agronomie et du tiers-mondisme. Ce sera en compagnie d'Hubert Cochet et de Maxime Zepanski.